RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chers amis, vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'heure suivante, vous allez écouter le magazine culturel qui sera continué avec Apprendre l'Indonésien. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons présenter d'abord des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. BNPB, 150 millions d'Indonésiens vivent dans des zones sujettes aux catastrophes. Le Parlement optimise que la coopération indo-tchèque augmente de plus en plus. L'excédent de la balance commerciale d'Indonésie dans 1,09 milliards de dollars américains. Célébration de la Journée internationale des monuments et des sites, le ministère de l'Éducation et de la Culture organise des expositions et des discussions culturelles. Le thon de Sumatra occidental est exporté vers le Japon et les États-Unis. Voici le journal complet. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, a officiellement fixé le 20 avril en tant que journée de préparation aux catastrophes, ou HKB. Il est basé sur la situation de l'Indonésie en tant que pays sujet aux catastrophes. Le chef de BNPB, Willem Rampangilai, a déclaré dimanche le 15 avril à Jakarta que l'Indonésie est difficile à échapper aux catastrophes naturelles car elle est entourée par la ceinture du feu du Pacifique.
Kita tahu juga bahwa negara kita ini dilalui oleh cincin api Pasifik.
Nous savons également que notre pays est traversé par le cercle de feu du Pacifique, si bien qu'il y a 150 millions de nos habitants vivent dans des zones sujettes aux tremblements de terre. 60 millions vivent dans des zones inondables, 40 millions vivent dans des zones vulnérables aux glissements de terrain, 4 millions sont sujets aux tsunamis et 1 million vivent dans des régions sujettes aux éruptions volcaniques qui est toujours sous la menace. Willem Rampangilai a déclaré que la gestion des catastrophes était une responsabilité commune du gouvernement, de la société et du monde des affaires. Par conséquent, BNPB a tenu spécifiquement la commémoration de HKB à laquelle est également assisté par ces éléments. BNPB lui-même estime que le HKB rend tous les éléments de la société plus réactifs pour surmonter le problème de la gestion des catastrophes. À travers de cette activité HKB, Willem Rampangilai espère sauver plus de vies indonésiennes des catastrophes naturelles, surtout pour réduire l'impact des catastrophes qui est très complexe et multidimensionnel. Le chef de la délégation de la Commission SI du Parlement de l'Indonésie, Dito Ganinduto, a exprimé son optimisme que la République tchèque serait l'un des partenaires potentiels pour l'Indonésie dans le cadre de l'expansion des marchés non traditionnels de l'Indonésie, en particulier dans la région de l'Europe centrale et orientale. Dito Ganinduto, dans l'événement convivial avec l'ambassadeur d'Indonésie, et du peuple indonésien à Praha, République tchèque, récemment expert, l'Indonésie, via son ambassade à Praha, continue d'explorer le grand potentiel de marché pour augmenter le commerce extérieur de l'Indonésie. Comme cité par Antara, la commission 6 du Parlement indonésien ou DPR RI a fait une visite de travail en République tchèque du 9 au 14 avril. À cette visite de travail, la délégation de la commission 6 de DPR RI a également tenu une réunion avec le comité économique du Parlement de la République tchèque. Un certain nombre de questions abordées lors de la réunion, entre autres, la gestion des entreprises publiques, le développement de l'énergie nucléaire pour la croissance économique et la dynamique du secteur des technologies de l'information dans le contexte de l'économie numérique. La balance commerciale de l'Indonésie pendant 3 mois exécutifs depuis décembre 2017 a un déficit. En mars 2018, le Bureau central des statistiques, ou BPS, a enregistré l'excédent commercial d'$1,09 milliard. L'excédent se produit parce que la valeur des exportations indonésiennes en mars 2018 a atteint $15,58 milliards, soit une augmentation de 6,04% par rapport à mars 2017. Cependant, la valeur des importations d'Indonésie en mars 2018 a atteint $14,49 milliards. Le chef du Bureau central des statistiques au BPS, Kucu Suharyanto, lors d'une conférence de presse à Jakarta, lundi, a dit que le secteur minier non pétrolier et gazier et l'industrie de transformation contribuent grandement à l'excédent au mois de mars 2018.
Kalau kita lihat menurut kontribusinya ya yang signifikan menyumbang di sana pertama
si nous regardons sa contribution qui a contribué de manière significative, le premier est l'industrie de la transformation et le second le secteur minier. Dans le secteur minier, il y a 3 secteurs en forte hausse, à savoir le charbon est en hausse de 24,17%, 36,76% de minerais de cuivre et le lignité provient de l'exploitation minière. L'industrie de la transformation a également augmenté de 9,17%. La contribution de l'industrie était de 71%. Pour les exportations, les résultats de l'industrie de transformation qui ont augmenté assez grand de mois en mois sont l'acier, le cuivre, le vêtement et la poudre. Selon Kucu Suharyanto, 3 plus grandes destinations d'exportation d'Indonésie en mars 2018 sont la Chine avec les exportations de $2,36 milliards, suivi par les États-Unis $1,59 milliards et le Japon $1,43 milliards. La contribution totale de ces 3 pays atteint 37,78% des exportations totales de l'Indonésie. En ce qui concerne les exportations vers l'Union européenne avec un total de 28 pays, l'Indonésie a enregistré $1,53 milliards dans le même mois. À l'avenir, les exportations indonésiennes vers les pays non traditionnels devraient augmenter, ce qui affecterait la croissance économique globale. À travers la 22e conférence générale de l'UNESCO de 1983, le 18 avril a été adopté comme la Journée internationale des monuments et des sites et ratifié par 167 pays, y compris l'Indonésie. Le patrimoine pour les générations est le thème adopté pour la Journée internationale des monuments et des sites en 2018. En tant que membre du Comité du patrimoine mondial en 2015-2019, l'Indonésie participe à commémorer la Journée internationale des monuments et des sites en organisant l'exposition et la discussion du patrimoine culturel intitulée « Partager des histoires, partager des connaissances ». Le directeur du patrimoine et de la diplomatie culturelle, Direction générale de la culture du ministère de l'Éducation et de la culture, Najamuddin Ramli, a dit que cette activité se déroulait du 16 au 20 avril. Lors d'une conférence de presse lundi, le 16 avril, il a souhaité que cette activité puisse produire les communications et le transfert de connaissances entre les générations. Pourquoi commémorons-nous la Journée internationale des monuments et des sites? parce que cela est très important pour nous montrer et nous héritons à nos enfants et petits-enfants. Cette génération millénaire n'aura plus la fierté du passé si le patrimoine culturel mondial n'est pas protégé. Selon Najamuddin, l'Indonésie a 17 patrimoines mondiaux qui sont fixés par l'UNESCO. Les objets du patrimoine mondial sont le temple de Borobudur, Prambanan, le site des premiers hommes de Sangiran et Subak. 9 patrimoines culturels immatériels et batik, angklung, marionnette, kris, la danse saman, noken, la méthode de fabrication de batik, pinisi et 3 genres de danse balinaise. Le patrimoine culturel naturel est le parc national Ujung Kulon, le parc national de Komodo, le parc national de Lorenz et le patrimoine des forêts tropicales à Sumatra. En l'an 2017, l'Indonésie a 594 patrimoines culturels immatériels. À l'avenir, l'Indonésie présentera la vieille ville et le système d'exploitation du charbon Ombilin Sawah Lunto. Le centre de contrôle de la quarantaine et de la qualité du poisson de Padang dans l'ouest de Sumatra a déclaré que le thon de la Provence était exporté tous les mois vers le Japon et les États-Unis par Dempo Andalan Samudra Société Anonyme. Rudy Barmara, chef de la station de quarantaine pour le contrôle de la qualité et la sécurité des produits de la pêche à Padang, a déclaré que la société exportait chaque année 2000 kg de thon frais vers le Japon et environ 1500 kg de thon congelé vers l'Amérique. Il a expliqué, le Japon voulait du thon frais et qui a été nettoyé. Pendant ce temps, l'Amérique demande des poissons congelés et disséqués de différentes tailles. Selon Rudy Barmara, chaque unité de gestion du poisson qui mène des activités d'exportation doit avoir un document sur l'analyse des risques et les points critiques. De plus, l'entreprise doit également avoir un document de santé sur le poisson et les produits du poisson à envoyer. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Serviteur, voici donc le commentaire et pour le titre, pour lutter conjointement contre les boissons alcoolisées mixtes. Les boissons alcoolisées mélangées ou localement appelées miras oplosan ont encore tué beaucoup de gens. Environ de 122 personnes deviennent victimes à Cicalengka, Java Occidental. 181 sont actuellement hospitalisées et il y a 41 victimes en Veng. Plus récemment, un tel cas similaire se produit également dans certaines régions. En conséquence, il y a des dizaines de victimes à cause de miras oplosan. Les résultats de l'examen médical ont conclu que les victimes souffraient de lésions graves de leur organe interne dû à l'effet de l'éthanol et du méthanol mélangés dans le miras oplosan. La condition est très inquiétante si nous regardons les données de 2013 à 2016 provenant des résultats de recherche dans des observateurs des politiques publiques. Il y a 487 victimes dues aux boissons mélangées, sans compter celles qui ont été traitées dans les hôpitaux. Dans une telle condition, il est temps pour l'Indonésie d'être en état d'urgence du miras oplosan. Sans devoir attendre d'autres victimes, sans entendre les résultats de recherche ultérieurs et sans une déclaration officielle du gouvernement indonésien, nous devons lutter ensemble contre la circulation des boissons mélangées et nous convenons que l'Indonésie est dans l'état d'urgence de miras oplosan. Une telle situation d'urgence n'est pas censée être provocatrice. Mais ceci est un véritable rappel aux décideurs et aux parties prenantes concernées, y compris le grand public, d'accorder une attention plus sérieuse aux boissons alcoolisées. La question est, pourquoi les boissons alcoolisées mixtes sont faciles à circuler parmi les gens? Avons-nous besoin de réviser ou de renforcer les règles existantes? Ou peut-être les boissons alcoolisées sont interdites du tout comme certains pays appliquent? Maintenant, Le gouvernement et les organismes d'application de la loi doivent s'engager à surveiller et contrôler la circulation des boissons alcoolisées mixtes. Ils ne devraient pas agir quand il y a un cas de victime et cela devient un projecteur. Une action ferme et une surveillance durable de la part du gouvernement, en particulier des forces de l'ordre, sont devenues l'une des clés du succès de la suppression de la circulation des boissons alcoolisées mixtes. Le processus légal dans le cas des alcools illégaux doit également être pris. Cette action engendrerait donc un effet dissuasif pour les acteurs, notamment les producteurs. Dernier point, mais non le moindre, le grand public doit également avoir un engagement fort. Les chefs religieux, les personnalités publiques, les éducateurs et les parents doivent également contribuer à empêcher les jeunes générations de consommer des boissons alcoolisées. Quelle que soit cette raison, c'est que l'existence de liqueurs, principalement les boissons alcoolisées mixtes ou miras oplosan, entraînera plus d'effets négatifs. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Irlésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 17 avril 1941, le royaume yougoslave se rend à l'Allemagne. Le prince Paul de la Yougoslavie a signé un accord de coopération avec l'axe germano-italien et le Japon dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais les officiers serbes anti-allemands ont renversé le gouvernement de prince Paul. Hitler était furieux et a attaqué la Yougoslavie. Après la conquête de ce pays, Hitler a divisé le pays sous l'occupation poros et le régime de marionnettes locales. Le 17 avril 1960, la fondation du Mouvement des étudiants islamiques indonésiens. Le Mouvement des étudiants islamiques indonésiens, ou PMII, est une organisation étudiante qui a été créée le 17 avril 1960 à Surabaya. Le premier président était Mahbub Junaidi. PMII vise à répondre aux défis de l'époque. Sa fondation était le désir des étudiants de Nahdlatul Ulama pour établir une organisation d'étudiants dont l'idéologie Ahlus Sunnah wal Jamaah. Le 17 avril 1975, les Khmer Rouges ont occupé Phnom Penh. Le 17 avril 1975, les Khmer Rouges, dirigés par Pol Pot, est entré dans la ville de Phnom Penh. Et quelques jours, ils ont exécuté des grandes figures de Cambodgiens et renversé le régime du général Lon Nol. Plus de 2 millions d'habitants de Phnom Penh ont été chassés de la ville et déplacés dans la zone de refuge. Il n'y a plus d'activité à Phnom Penh. Toutes les économies du pays ont changé sous le communisme. L'argent a disparu de la circulation qui a fait la famine et la maladie dans cette région. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre Moody's augmente le classement de l'Indonésie dans une perspective stable. L'agence de notation Moody's Investor Service ou Moody's a augmenté la note de crédit souverain ou SCR de l'Indonésie de BAA3 ou Positive Outlook à BAA2 ou Stable Outlook le 13 avril 2018. Dans un communiqué de presse, Moody's a déclaré que le facteur clé était la crédibilité et l'efficacité du cadre politique évalué favorable à la stabilité macroéconomique. L'augmentation des réserves de devises et l'application prudente de politiques budgétaires et monétaires renforcent la résilience et la capacité de l'Indonésie face aux chocs extérieurs. Selon le plan budgétaire, le gouvernement est considéré comme capable de maintenir le déficit budgétaire sous la limite de 3% depuis son adoption en 2003. Un déficit qui peut être maintenu à des niveaux bas et soutenu par un financement à long terme peut réduire le fardeau de la dette, si bien que cela réduit les besoins et les risques de financement. Sur le plan monétaire, la Banque d'Indonésie a fait ses preuves en accordant la priorité à la stabilité macroéconomique. La mise en œuvre d'une politique de taux de change flexible et une coordination politique plus efficace entre la Banque d'Indonésie et les gouvernements centraux et régionaux sont considérés comme capables de maintenir l'inflation à un niveau relativement bas et stable. La Banque d'Indonésie est également de plus en plus active dans l'utilisation d'instruments macroprudentiels face à la tourmente. L'amélioration des positions externes et l'augmentation des réserves de change renforcent la résistance à la tourmente extérieure potentielle. Pendant ce temps, le gouverneur de la Banque indonésienne, Agus Martowardoyo, a déclaré vendredi que Republika avait déclaré, avec l'amélioration de la notation au niveau de Baa2 par Moody's, cela signifie que l'Indonésie a été reconnue par 4 agences de notation internationale à un niveau plus élevé que le niveau précédent de l'investissement. Cette notation est le plus haut niveau qui a été atteint par l'Indonésie de Moody's. Selon lui, c'est une grande réussite au milieu de l'incertitude économique mondiale qui affecte le développement économique dans la région. Cela peut se réaliser à travers la cohérence des efforts de la Banque indonésienne et du gouvernement pour maintenir la stabilité macroéconomique et le système financier. Agus Martowardoyo a expliqué à cet égard que la Banque d'Indonésie continuera à être cohérente de l'augmentation des risques mondiaux et de l'optimisation de la politique mixte qui inclut la politique macroprudentielle et l'approfondissement des marchés financiers dans le maintien de la stabilité économique. Ce sera la base principale de la création d'une croissance économique plus forte, plus durable et inclusive. Auparavant, Moody's avait amélioré la note de crédit souverain ou SCR de l'Indonésie de stable à positif, confirmant simultanément la notation à Baa3 ou le niveau de l'investissement le 8 février 2017. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Serviteur, voici donc le rappel de titre de l'actualité. L'Agence nationale de gestion de catastrophes, BNPB, a officiellement fixé le 26 avril en tant que journée de préparation aux catastrophes au HKB. Il est basé sur la situation de l'Indonésie en tant que pays sujet aux catastrophes. Le chef de la délégation de la commission C du Parlement de l'Indonésie, Dito Ganduto, a exprimé son optimisme que la République tchèque serait l'un des partenaires potentiels pour l'Indonésie dans le cadre de l'expansion des marchés non traditionnels de l'Indonésie, en particulier dans la région de l'Europe centrale et orientale. La balance commerciale de l'Indonésie pendant 3 mois exécutifs depuis décembre 2017 a un déficit. En mars 2018, le Bureau central des statistiques, BPS, a enregistré l'excédent commercial d'$1,09 milliard. L'excédent se produit parce que la valeur des exportations indonésiennes en mars 2018 a atteint $15,58 milliards, soit une augmentation de 6,04% par rapport à mars 2017. À travers la 22e conférence générale de l'UNESCO de 1983, le 18 avril a été adopté comme la Journée internationale des monuments et des sites et ratifié par 167 pays, y compris l'Indonésie. Le patrimoine pour les générations est le thème adopté pour la Journée internationale des monuments et des sites en 2018. Le centre de contrôle de la quarantaine et de la qualité du poisson de Padang dans l'ouest de Sumatra a déclaré que le thon de la Provence est exporté tous les mois vers le Japon et les États-Unis par Dempo Andalan Samudra Société Anonyme. Chers auditeurs, c'était le rappel de titre de l'actualité de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voines.id/FRENCH.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant la tradition de l'offre de durian au village de Sidatama, Bali. Donc restez toujours avec nous, le service mondial de la Radio République Indonésia, la voix de l'Indonésie. Le village de Sidatama, district Banjar, est l'un des villages les plus riches avec une production locale de durian. Dans la saison de récolte, il y a un rituel unique exécuté par ses citoyens, l'offre de durian produite par une cérémonie ngaturan buah. Cette tradition se perpétue depuis des générations, probablement depuis l'année 535 Sakau ou environ l'année 767, la cérémonie ngaturan buah aura généralement lieu pendant 3 jours. Le rituel a lieu comme une forme d'action de grâce et d'expression de gratitude vers le dieu qui a gardé les plantes. Le rituel ngaturan buah se déroule comme une forme de grâce et d'expression de gratitude envers le dieu qui garde les plantes. Ce rituel se déroule à Pura Bali Agung. Chaque citoyen a amené 3 durian. Les femmes portent le durian en le plaçant dans le besek, et alors que les hommes l'ont pris avec un kisa ou cache de poulet faite de feuilles de cocotier. La cérémonie à Pura Bali Agung est suivie d'une cérémonie dans le jardin à la maison. Le premier jour, les villageois doivent amener 3 durian. Si quelqu'un a d'autres fruits, veuillez les ramasser au temple. Habituellement, les personnes qui ont du mangoustan porteront au moins 3 kilos de mangoustan. Ceux qui ont des fruits de rambutan portent au moins 3 paquets. Le deuxième jour, la communauté a encore besoin d'apporter 2 durian. Alors que troisième jour, un seul durian doit être apporté. Les résidents n'osent pas violer et ils comprennent très bien que si par hasard dans le jardin il n'y a pas de fruits, ils acceptent ou même demandent aux parents ou bien aux voisins. La tradition rituelle se termine par une prière commune. Après avoir prié, les villageois sont invités à retourner chez eux en ramenant les fruits qu'ils ont déjà préparés. Basé sur la croyance, avant de faire la tradition ngaturan buah, les gens ne devraient pas donner le fruit de la récolte à la maison ou dans le jardin. Les premières offrandes devraient être à Pura Desa, comme une forme de gratitude à Sang Yang Sankara, le dieu de plantes et aussi des ancêtres qui sont venus du mont Raoum. L'un des villageois du village de Sidatapa, Iwayan Ariawan, a déclaré que les rituels qui n'existent pas dans d'autres régions sont réalisables en tant qu'attraction touristique et pour cela, il a essayé de pionnier que chaque rituel tenne aussi le festival. En plus de préserver la tradition, les visiteurs peuvent profiter du durian produit par les agriculteurs. L'impact bénéficiera de plus de ventes de durian que l'habitude. Chers amis, c'était magazine culturel intitulé Tradition Ngaturan Buah de Bali. Merci à tous et au revoir.
Mari berbahasa Indonesia. Parlons indonésien. Vous invite à parler bien et facilement indonésien.
Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre La Voix de l'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger avec l'Agence du développement et du renouvellement du langage, le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République indonésienne. Le sujet d'aujourd'hui est cuaca, ou en français, le météo. Allons-y. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation dont le titre est cuaca ou le météo. Tony. Oh, panas sekali. Berapa suhunya? Pemandu wisata. 30 derajat Celsius. Tony. Wow. Pemandu wisata. Berapa suhu di London pada musim panas? Tony. Sekitar 23 derajat. Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, cuaca, ou en français, le météo. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et vous pouvez le répéter après moi. Suhu, suhu, ou en français, la température. Berapa suhunya? Berapa suhunya? Ou en français, quelle température fait-il? 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. Ou en français, 30 degrés Celsius. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? Ou en français, quelle est la température à Londres en été? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. Ou en français, environ 23 degrés. Quand on parle de la météo, Parfois, quelqu'un veut connaître la température de ce moment-là. Pour poser des questions sur la température, vous pouvez demander des questions. Berapa suhunya? Berapa suhunya? Qui signifie? Quelle température fait-il? Si vous voulez savoir la température de l'air dans une ville ou un pays pendant une saison, vous pouvez poser une question. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? Qui signifie? Quelle est la température à Londres en été? L'exemple d'autre question c'est berapa suhu udara pada musim dingin? Berapa suhu udara pada musim dingin? Qui signifie? Quelle est la température en hiver? Si vous connaissez exactement la température de l'air, montrez la quantité de température. Mais si vous n'êtes pas trop sûr, utilisez le mot sekitar. Sekitar, qui signifie environ, et vous pouvez aussi utiliser le mot kurang lebih. Kurang lebih, qui signifie plus ou moins. Par exemple, berapa suhunya? Berapa suhunya? Qui signifie quelle température fait-il? Ou kurang lebih 23 derajat Celsius. Kurang lebih 23 derajat Celsius. Qui signifie environ 23 degrés Celsius. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre plus, écoutons encore une fois la conversation. Tony. Oh, panas sekali. Berapa suhunya? Pemandu wisata. 30 derajat Celsius. Tony. Wow. Pemandu wisata. Berapa suhu di London pada musim panas? Tony. Sekitar 23 derajat. Les amis, voilà l'édition de la rubrique d'apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourrait être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. Pour un exercice, envoyez votre enregistrement vocal en indonésien à notre adresse email à voinews@voinews.id. Il y aura un prix intéressant pour un expéditeur sélectionné. L'exercice est saluer d'abord et puis mentionner votre nom, votre pays, votre adresse et votre nourriture préférée. Par exemple, selamat pagi, nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup de votre attention et à demain!
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs. Voici le magazine musical qui présente les musiques pop et traditionnelles de l'Indonésie. Pour l'édition de ce soir, nous vous sélectionnons les chansons traditionnelles de Gorontalo. Pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson intitulée Bintai Bilhuta, chantée par Edi Silitonga. Bonne écoute.
Love.
Secretary Talk, setelah Samsung ang titulé Binte Bilhuta Shangte Park Edicili Tonga ang Shangta Lejang Deak de l'Indonésie. Binte Bilhuta est l'une des alimentations typiques de Gorontalo sous la forme de soupe de maïs. Certaines personnes locales l'appellent aussi Milu Siram. Comme on le sait, la culture du maïs est l'un des principaux produits de Gorontalo. Il n'est donc pas surprenant que cette nourriture soit facile à trouver. Cette chanson raconte la nourriture familière de la vie quotidienne des habitants de cette région. La région Gorontalo est également connue sous le nom de la ville de Serambi Medina. La province est située sur la péninsule de Gorontalo, sur l'île de Sulawesi, précisément dans la partie occidentale de la province de Sulawesi du Nord. Bon, chers auditeurs, écoutons donc la chanson traditionnelle suivante, intitulée Hulanda Lolipu'u de Rama Aifama. Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson traditionnelle de Gorontalo, intitulée Hulandalolipu'u. Le mot Hulandalolipu'u signifie Gorontalo, ma région. La chanson a été interprétée par Rama Aifama, un chanteur indonésien de Gorontalo. Rama, avec son apparence unique et typique, a également interprété les chansons avec les genres malais et kroncong. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, écoutons maintenant les dernières chansons intitulées Dabu Dabu et Hirameya. Toutes les deux chansons chantées par Edi Silitonga. Bonne écoute et à demain!
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/frenca.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, c'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.